Bonjour à ceux que je n'ai pas salués, et rebonjour aux autres. Et merci à l'équipe de préparation de cette première partie pour leur dynamisme entraînant qui nous a élevés avec ces chants magnifiques, et puis aussi cette méditation de ce thème de courir avec et pour le Seigneur. Alors je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles au chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Vous savez que Noël approche et même cette couronne de l'Avent ici nous prépare aussi à attendre Noël. Deux bougies sont déjà allumées, ça veut dire qu'il ne reste que deux dimanches avant Noël. Alors le sujet ce matin, ce sera la venue de l'Emmanuel. Et nous lirons plusieurs lectures au fur et à mesure de cette méditation. Mais avec le chapitre 7 du livre d'Ésaïe, nous sommes vers 730 avant Jésus-Christ, environ. Alors, ça fait quand même 2700 ans en arrière, et ce n'est pas rien. Et Dieu envoie son prophète Ésaïe et son fils à la rencontre du roi Akaz, le roi de Juda. Le pays d'Israël était séparé en deux. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud, qui s'appelait le royaume de Juda aussi. Un peu comme, il n'y a pas si longtemps que cela, il y avait deux Vietnams, un Vietnam du nord et un Vietnam du sud. Il y avait deux Allemagnes, une Allemagne de l'Est et une Allemagne de l'Ouest. Et il y a encore aujourd'hui deux Corées. Donc il y avait une séparation entre ces deux royaumes, et le roi Akaz était le roi de Juda. C'était un roi qui agissait de façon très déplaisante au Seigneur. Il accomplissait même des atrocités. Vous avez dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, quelques chapitres qui parlent de ce roi. Et il allait même jusqu'à faire passer ses fils par le feu, c'est-à-dire qu'il les offrait en holocauste aux rois, aux dieux étrangers, pour se rendre agréable à ces dieux étrangers. C'est dire combien il pouvait irriter au plus haut point le Seigneur qui était contre, bien sûr, ces abominations. Et alors que le roi de Syrie, qu'on appelle aussi Aram, qui a donné ensuite araméen, c'était la langue aussi que parlait Jésus et tous ceux de cette époque-là, en Israël. Alors que le roi d'Aram s'allie avec le roi de l'Israël du Nord pour attaquer le royaume du Sud, le texte nous dit, et là je cite Ésaïe chapitre 7 verset 2, « Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir comme les arbres de la forêt sous le vent. » Ben oui, que pouvait faire le petit royaume de Juda contre la Syrie et le royaume du Nord, qui était d'ailleurs beaucoup plus grand? Mais c'est alors qu'Ésaïe le rencontre et vient lui dire, et nous lisons là au verset 4, Ésaïe 7, verset 4, « Sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne mollisse pas devant ces deux bouts de tison fumant. » Voilà comment Dieu voit la situation. Et au verset 9, « Si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. » C'est un appel à se tourner vers Dieu, à lui faire confiance, même si Akaz et son peuple s'étaient détournés de Dieu et ne se souciaient guère de lui. Ésaïe dit encore à ce roi Achaz au verset 10 « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés, c'est-à-dire un grand signe ou un petit signe, enfin peu importe. » Achaz répondit « Je ne demanderai rien et je ne provoquerai pas le Seigneur. » Ça peut paraître comme une parole de sagesse, mais je crois que en réalité, il ne veut rien avoir à faire avec le Seigneur. Il préfère continuer à se confier dans ses dieux étrangers et chercher du secours dans des combinaisons politiques. Il se donnera au roi de l'Assyrie, cet empire immense qui était pas très loin, qui en fait ensuite va se moquer de lui. L'introduction au livre d'Ésaïe dans ma Bible, qui est la Nouvelle Bible Seconde, dit ceci. Au milieu de ces intrigues, la parole du prophète apparaît comme la voix de la conscience d'Israël. Oui, Ésaïe cherche à éveiller la conscience spirituelle d'Israël, parce que ce n'était pas possible qu'ils aient oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et ils avaient encore la parole de Dieu avec eux, même s'ils ne la lisaient pas et même s'il était oublié. Alors, Ésaïe dit encore au verset 13 et au verset 14, et nous venons un peu au sujet de notre méditation. Écoutez, je vous prie, maison de David. David, le roi David, qui était un roi. Bon, il n'était pas parfait, hein, ça c'est loin d'être le cas. Mais selon le cœur de Dieu. Et pourquoi était-il selon le cœur de Dieu? Parce qu'il a su se repentir lorsqu'il a reconnu son péché. Il savait reconnaître aussi son péché. Il était humble de cœur. Il n'était pas parfait, mais il avait une attitude que Dieu appréciait, c'est-à-dire la repentance. Écoutez, je vous prie, maison de David. Et en disant maison de David, Ésaïe rappelle à Achaz qu'il est de la lignée du roi David, qui lui faisait ce qui convenait au Seigneur. Et il poursuit, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Alors, remarquons le passage entre ton Dieu et mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte ou sera enceinte, on peut traduire l'un ou l'autre. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Emmanuel. Vous connaissez la suite. Vous savez que cette prophétie s'est accomplie 7 siècles et demi plus tard, à Bethléem, la ville du roi David, par la naissance de Jésus, selon ce que l'ange Gabriel avait annoncé à Marie. Et Luc 1, 27 nous dit « Une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. » 7 siècles et demi plus tard. En quoi cela pouvait-il intéresser Achaz, qui aurait voulu avoir une délivrance tout de suite? Et encore, en disant 7 siècles et demi, nous sommes modestes. Car Moïse avait déjà annoncé un prophète comme lui. Deutéronome 18:18, le Seigneur m'a dit Moïse, je susciterai pour eux parmi leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Ça, c'était grosso modo 1500, 1400 ans avant Jésus-Christ. Et encore, là aussi, nous sommes modestes. Vous connaissez ce cantique de Noël, « Il est né le divin enfant ». Vous vous rappelez de la première strophe, « Il est né le divin enfant ». Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis près de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Alors à quoi ce cantique fait-il référence? Je pense qu'il fait référence à la parole que Dieu a dite à Satan. Oui, à Satan. En Genèse chapitre 3, après le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, et il dit à Satan, « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Il s'adresse au serpent de ce texte de Genèse 3. Mais alors qu'il est question de la descendance de la femme, hein, donc sa postérité qui est allée jusqu'au peuple de l'époque de Jésus, il ne dit pas « celle-ci écrasera la tête de ta postérité à Satan », mais « t'écrasera la tête à toi, Satan ». Autrement dit, ce n'est pas le serpent à qui il s'adresse, puisque ce serpent, comme tous les animaux, est mort quelque temps après. Mais il s'adresse à Satan, qui, lui, n'est pas encore mort. C'est une prophétie dont l'Église ancienne a vu comme, elle l'appelle, un protévangile, c'est-à-dire un évangile avant l'évangile, une bonne nouvelle avant la bonne nouvelle. Et c'est une allusion à la victoire de Jésus sur Satan. Et l'apôtre Paul écrit à la fin de son épître aux Romains, « Le Dieu de la paix écrasera bientôt le Satan sous vos pieds. » C'est aussi une allusion à ce texte de Genèse 3. Alors, pour revenir à Akaz, on peut dire que Dieu, je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais il écrase le temps. Voilà, je ne sais pas si la formule est parlante. Mais un peu comme Jésus, lorsque dans Matthieu chapitre 24, où il annonce la fin de Jérusalem, hein, il ne restera pas pierre sur pierre, en même temps, il annonce la fin du monde aussi. Hein. Et il donne d'ailleurs des renseignements, pas toujours bien précis, mais en tout cas, il met en garde ses disciples. Donc, il y a, dans la parole de Jésus, deux événements qui se entrecroisent, hein, qui se superposent. Il y a la fin de Jérusalem, ce qui s'est véritablement passé une quarantaine d'années après, en l'an 70. Jérusalem a été complètement détruite, le temple aussi. Et des événements à la fin des temps. Et bien malin celui qui arrive à discerner les temps et les moments. Il y a des indices, mais pas très précis. Alors ici, pour Akaz, la prophétie est suffisamment claire pour lui faire comprendre que le salut ne peut venir que de Dieu, d'une façon miraculeuse. Est suffisamment floue, hein, cette prophétie est suffisamment floue, pour qu'ils n'en connaissent pas le déroulement exact. D'où la nécessité de la foi et de l'espérance pour nourrir son attente et notre attente aussi. La jeune fille est enceinte, ou la jeune fille sera enceinte. Le terme hébreu de jeune fille signifie une jeune femme non mariée, par définition vierge. D'où la traduction de vierge et non plus de jeune fille dans la Bible des Septante. Alors ça, c'est une traduction de l'Ancien Testament, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas de Nouveau Testament encore à cette époque, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Des Juifs ont traduit l'Ancien Testament en grec, alors qu'il était écrit en hébreu. Et n'ont pas traduit littéralement la jeune fille, ils ont traduit ce que cela signifie véritablement, la Vierge sera enceinte. Et cette Bible, dite des Septante, était la Bible, puisque le grec était parlé dans l'Empire romain à l'époque de Jésus. Et c'est pourquoi les auteurs du Nouveau Testament, des Évangiles, ont repris cette traduction-là lorsque il a été question de la naissance de Jésus. Alors, Ésaïe précise aussi que cet enfant sera un fils. Alors, je rappelle, au cas où vous ne le savez pas, qu'il n'y avait pas d'échographie à cette époque, 7 siècles et demi avant Jésus-Christ. Et Ésaïe dit que sa mère, la mère de cet enfant, l'appellera Emmanuel. On pourrait dire Manu pour les intimes. Et certains de dire, pourquoi alors Jésus ne s'est-il pas appelé Emmanuel ? Alors tout d'abord, Emmanuel n'était pas un prénom à cette époque. Mais ça n'empêchait pas que ce fils annoncé puisse s'appeler Emmanuel, puisque ce qui veut dire Dieu avec nous, hein, puisque c'est ainsi qu'on formait les prénoms à cette époque, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs aussi, on a retrouvé un peu cette pratique qui date de plusieurs siècles, hein, quand on donne des prénoms qui veulent dire quelque chose, mais qui ne sont pas tellement utilisés d'habitude. Ça, c'est une première chose. Mais si Jésus s'était appelé, qui est vraiment l'accomplissement de cette prophétie, s'était appelé Emmanuel, alors pourquoi pas aussi, et là nous pouvons lire au chapitre 9 et au verset 5, chapitre 9 et verset 5, un enfant nous est né, ou car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, hein, il reprend ce qu'il a déjà dit au chapitre 7, il a la souveraineté sur son épaule, on l'appellera, ou on l'appelle, du nom de. Alors voilà, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas appelé Jésus conseiller étonnant, ou merveilleux, ou magnifique, Dieu héros, ou notre traduction Dieu puissant, ou Père éternel, ou prince de la paix, puisque nous avons la même formule, on l'appellera. En fait, derrière ces prénoms, il y a les qualités, on pourrait dire naturelles, de celui qui devait venir, et donc de Jésus. Conseiller, c'est Dieu qui est un conseiller. Et le conseil de Dieu, c'est d'entrer un peu dans ce secret de Dieu concernant le salut de tous les hommes. Et c'est ce qu'a fait Jésus avec force. Et puis, bien sûr aussi, Dieu héros ou Dieu puissant, Jésus est Dieu, c'est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Et Père éternel, c'est Dieu avec nous, au milieu de nous. Donc ces prénoms reflètent ce que sera ce Fils et ce qu'il sera dépasse l'entendement. Ésaïe dit qu'il sera roi, chapitre 9, verset 5, il aura la souveraineté sur son épaule. Et au verset 6, il accordera une paix sans fin au trône de David et à son royaume, dès maintenant et pour toujours. Alors, aucun des rois d'Israël qui ont suivi Achaz n'aurait pu prétendre à avoir de tels prénoms, de tels noms, à accomplir de telles actions. Lequel d'entre eux a donné une paix sans fin? Alors on pourrait dire, Jésus non plus, mais Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il est, effectivement, nous dit le Nouveau Testament, le prince de la paix. Le verset 4 du chapitre 9 nous dit que ce sera la fin des guerres. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes, c'est-à-dire détruites complètement pour être dévorées par le feu. Ce sera un royaume sans fin où la paix règnera pour toujours et seul le Messie, l'envoyé de Dieu, où Dieu lui-même pouvait remplir ses conditions pour prétendre être l'accomplissement de ses prophéties. Alors quelle différence avec le règne d'Akaz, symbole des royaumes terrestres, marqués par les guerres, les conspirations, les déportations. Et c'est ce que nous décrit le chapitre 8 qui se trouve entre ce chapitre 7 et ce chapitre 9. Je vous lis chapitre 8, verset 13 du livre d'Ésaïe. « C'est le Seigneur que vous devez reconnaître pour saint. C'est lui que vous devez craindre. » Alors, de tout temps, les hommes ont été dans la crainte de ce qui allait advenir. La crainte d'une guerre plus ou moins annoncée, la crainte du Covid. Vous savez comment on appelle le Covid maintenant? Comment il s'appelle? C'est l'Omicron. C'est une lettre grecque, O, la lettre O, qui s'appelle Omicron. Omicron, petit O, le petit O. Mais il y a aussi le grand O, l'Oméga. C'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Alors, notre crainte ne doit pas être dans l'Omicron, mais dans l'Oméga. En celui qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a rien qui vaille. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas craindre le virus, bien sûr, ou se moquer des gestes barrières ou de la vaccination, comme s'il n'y avait rien à redouter. Je crois que Dieu a donné à notre génération des hommes et des femmes suffisamment doués pour faire des prodiges dans le domaine de la science et de la médecine. Rendons-lui grâce et ne méprisons pas ces dons de Dieu. Vous connaissez peut-être cette petite histoire de cet homme qui était pris dans une inondation, voilà. Alors, il se réfugie au premier étage, et puis le maire passe sur une barque et lui dit, mais on vient vous chercher, hein. Non, Dieu va me délivrer, non, ne craignez rien. Bon, il a refusé l'aide du maire, et puis l'eau montait, il s'est réfugié sur le toit de sa maison, et les pompiers sont arrivés. Venez, on va vous sauver. Non, c'est le Seigneur qui va me délivrer. Et puis voilà que la maison s'écroule et il se noie. Il se retrouve devant le Seigneur et lui dit, mais Seigneur, tu n'es pas venu à mon secours, tu ne m'as pas sauvé. Comment ça, je ne t'ai pas sauvé, dit le Seigneur. Je t'ai envoyé d'abord le maire et ensuite les pompiers et tu n'as pas voulu mon aide. Ben voilà. Hein? Alors c'est vrai que c'est le Seigneur que nous devons craindre, mais ça n'empêche pas que nous pouvons profiter de tous ces cadeaux, de tous ces dons que Dieu a fait et qu'il continue de faire d'ailleurs aux hommes sans même qu'ils s'en rendent compte. Tournons maintenant les pages de notre Bible dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie, Il entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Nous retrouvons presque mot pour mot les paroles du prophète Ésaïe que nous avons lues tout à l'heure. Et c'est sans aucun doute pour l'ange Gabriel et pour Marie l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qui a traversé les siècles sans une ride. Une vierge, tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras du nom d'eux, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Voilà des mots, des expressions, mot pour mot, se retrouvent dans le livre d'Ésaïe. Eh bien oui, Jésus est ce conseiller merveilleux, c'est-à-dire celui qui dévoile le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Ce Dieu héros, Jésus est Dieu au milieu des hommes, ce prince de la paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous la donne, mais pas comme le donne le monde. Il est ce roi d'un royaume qui n'a pas de fin, d'un royaume éternel. Mais qui aurait pu prévoir un tel accomplissement, une réalisation même en deux parties, car là nous n'avons que la première partie qui est réalisée, mais Jésus revient aussi, va revenir. La première partie s'est passée dans l'humilité et dans l'humiliation même, l'autre dans la gloire éternelle et la victoire sur Satan. Et qui aurait pu prévoir qu'une jeune fille de Galilée mettrait au monde un fils sans avoir couché avec un homme? C'était impossible. Mais parce que c'était impossible, Dieu l'a fait. Parce que c'est Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Et Dieu est toujours plein de ressources insoupçonnées. Il nous étonnera toujours. Jésus est bien ce Messie qui devait venir. Et il viendra une seconde fois. Nous l'attendons, nous l'avons lu tout à l'heure dans les Philippiens. Sa venue est aussi certaine que l'aurore après la nuit. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour, dit l'apôtre Pierre. Notre rôle à nous, c'est d'espérer, de croire et d'être sûr que cela se passera parce que c'est Dieu qui l'a dit et c'est lui qui le fera. Alors interpellé par le prophète Ésaïe, le roi Achaz a été appelé à faire confiance à son Dieu et à regarder loin devant, au-delà de son règne calamiteux. Eh bien, il en est de même pour nous, malgré nos péchés, nos erreurs, notre manque de foi, nos manquements. Croyons à l'impossible, rendu possible par Dieu. Attendons-nous à des choses extraordinaires de sa part. Vivons dans l'espérance. Et je relis ce qui a été lu tout à l'heure, je l'avais aussi noté, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le configurant, on a l'impression d'avoir un ordinateur là, hein, en le configurant à son corps glorieux par l'opération Oui, l'opération du Saint-Esprit, on pourrait dire. Hein. L'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. Souvent, nous imaginons ce que sera ce moment-là. Mais notre imagination est très pauvre, parce qu'elle est humaine. Ce ne sera pas quelque chose à notre dimension humaine, ce sera quelque chose à la dimension de Dieu. Voilà pourquoi ça ne sert peut-être pas à grand-chose de l'imaginer. Ou si on prend son imagination pour la réalité, dans ce cas-là, on se trompe fortement. Oui, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Gloire lui soit rendue. Amen.